Bonjour à tous ceux que j'ai pas salués. Je vais prêcher dans le thème. Donc ça va être la famille. J'ai trois textes à vous faire lire ce matin. D'abord deux dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 5. Commence à bien le connaître parce qu'on fait toute notre étude biblique dedans. Matthieu 5, au verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle brille sur tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un deuxième texte, donc au chapitre 10, il est moins fun. Chapitre 10, verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue, sa vie à cause de moi, la retrouvera. Je m'arrête là. Et une dernière lecture dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre, pardon, 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. À ceux qui sont mariés avec un non-chrétien, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle est séparée, ben qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se... Pardon, c'est pas ça, pardon. 20, 12, pardon. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Voilà, les trois passages. Allons-y franchement, la famille et la foi, c'est des sujets très compliqués. Y a des familles où on a l'impression que tout se passe bien. C'est pas famille bénie, on dira. Alors, on ne sait pas tout ce qui se passe au-dessous de la surface. Et parfois, c'est beaucoup moins joyeux que ce qu'on croit. Y a des familles où, en fait, c'est divisé. Il y a des croyants, il y a des non-croyants. Il y a des familles qui sont divisées, où ils sont tous croyants aussi. Oui. Il y a des familles où ils sont divisés à cause de la foi, où ils vont pas dans les mêmes églises. Parce que c'est, comprends? C'est pas possible. Il y a des familles où tout le monde dit qu'il est croyant, mais il y en a, des fois, on comprend pas quand on lit la Bible et qu'on voit comment ils se comportent, comment ils peuvent être croyants. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai.
Puis il y a l'église où toutes ces familles se rassemblent et où c'est difficile de ne pas se comparer. Et ça nous fait un mal fou. Ça nous fait un mal fou. Et pourtant, la famille, c'est vraiment ce... En même temps que Dieu nous fait le cadeau de la vie, il nous fait le cadeau d'une famille. Et des fois, on a vraiment l'impression que c'est la loterie. Et on ne comprend pas trop. Mais on est dans une communauté qui a une mission de la part de Dieu, qui est simple, qui est difficile, mais qui est très simple. Nous accompagner jusqu'à la maturité pour vivre notre vie dans l'amour et la bienveillance. Tout ce qu'a rappelé Bruno, ayez en vous des entrailles de miséricorde, de la douceur, de la patience, etc. Et par-dessus tout, la paix. Et qui d'entre nous ne rêve pas de ça? Et voilà que le thème de la deuxième bougie de l'Avent, c'est la paix dans nos familles. Alors Bruno l'a dit, je ne vais pas inventer quelque chose d'autre, être en désaccord avec lui. La paix dans nos familles passe par nous. Et ce texte-là de Christ qui rassemble ses foules et ses disciples face à lui et qui leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. J'y crois profondément. C'est par nous que la paix arrive dans les familles. Puis quand on est plusieurs à être en Christ, alors là, c'est encore mieux, mais pas forcément plus facile. Et puis ce texte en 1 Corinthiens 7, qui m'est terriblement cher, où un seul converti dans la famille propulse toute la famille dans la présence de Dieu. Un seul converti dans la famille, un seul qui reçoit l'Esprit Saint en lui, propulse toute la famille dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas tous sauvés. Ils sont tous dans sa présence. Ça veut dire quoi? Ben, Dieu se considère comme le Dieu de cette famille. De cette famille. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul dit, ben, si cette femme est marié à un non-croyant. Alors, on est dans l'époque de l'Église primitive, le tout début de l'Église, les premières générations de chrétiens. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà, certains entendent prêcher les apôtres et oh, cette femme se convertit. Et le temps passe et au bout de quelques temps, elle s'interroge et elle demande aux apôtres, mais voilà, maintenant moi je suis une femme croyante, c'est mon mari, lui, s'est pas converti, qu'est-ce que je fais? Et Paul de dire... Tout ce mariage est sanctifié par toi. Tout ce mariage. Mais on a eu des enfants. Et eux aussi. Tout ce mariage est sanctifié. Il n'y a pas de mariage illégitime. Vous savez que dans l'islam, par exemple, si un homme veut épouser une musulmane, le mariage lui soit refusé à moins qu'il ne se convertisse. Pour une raison toute simple. C'est que c'est par l'homme que se transmet l'islam. Donc, si le père est musulman, les enfants le sont. C'est leur loi. Donc, ils ne vont pas laisser une musulmane épouser un non-musulman, parce que du coup, les enfants ne seraient pas musulmans. Chez les juifs, c'est l'inverse. C'est par la mère que ça passe. Mais chez les chrétiens, toute la famille est automatiquement inclus dans l'alliance, que ce soit par le père, que ce soit par la mère, que ce soit par les enfants aussi. Pourquoi? Parce que Dieu appelle au salut toute une famille. Il n'y a pas prendre une personne et dire, bon, écoute, toi, je te sauve. Puis laisser volontairement sur le carreau toute sa maison. Et s'il dit, toi, je te sauve, eh ben, cet appel qu'il a donné, il va le donner automatiquement et fidèlement à tous les membres de sa famille. Alors, ne me demandez pas jusqu'à combien de générations ça remonte, je ne sais pas. On peut compter sur sa confiance. Autrement, dit-il, vos enfants seraient comme des enfants illégitimes, comme des enfants nés hors mariage, comme des enfants... Et Dieu dit non, tandis qu'en fait vos enfants sont saints. Saints. On voit bien que Dieu veut bénir les familles à travers ses enfants à lui. Vous êtes les enfants de Dieu et Dieu veut bénir. Et quelque part, quand Dieu disait à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par ta descendance. Évidemment, tout part de Christ. Mais cette descendance, c'est aussi vous et moi, par laquelle toutes les familles de la terre sont bénies. Mais comme je l'ai lu, tout n'est pas si simple. Et ce texte étrange en Matthieu où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. » Je croyais qu'on devait t'appeler prince de paix. Pourquoi tu apportes l'épée? Parce que parfois, on ne veut pas de la paix. Parfois, on ne veut pas de la paix pour tout le monde. Parfois, on veut de la paix pour moi et les miens. Mais avec les autres, non. Parfois, on veut de la paix, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, alors non, il n'y aura pas de paix. Alors nous avons un Dieu qui veut la paix avec nous, on l'a dit, on l'a répété, on l'a vu dimanche dernier. Et pour établir cette paix avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Des conditions. Il les prend toutes sur lui, il remplit toutes les conditions et il nous offre une paix. Sans condition? Presque. La condition, c'est d'accepter que toutes les conditions, il les a accomplies. Et de vouloir la paix. Alors nous sommes en paix avec Dieu. Et c'est bien de cette paix que nous sommes chargés d'être les héros, les prophètes, les ambassadeurs dans nos familles. Et c'est précisément cette paix qui parfois, dit Jésus, va apporter la division dans les familles. Et il assume. On se dit, on ne peut pas créer la division en cherchant à apporter la paix. L'actualité récente nous a montré que, entre Israël et la Palestine, le président d'Israël, Benjamin Netanyahou, a préféré avoir comme interlocuteur le Hamas dans la bande de Gaza plutôt que d'avoir comme interlocuteur le président palestinien qui était en Cisjordanie. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il avait comme interlocuteur privilégié le Hamas, toutes les négociations de paix échoueront. Et comme ça, il pouvait avoir la paix que lui veut, c'est-à-dire une paix où il n'y a pas de Palestine. À l'inverse, le Hamas a joué son jeu en ayant ses actes de terrorisme et de violence extrême, ce qui fait qu'on est vraiment dans une impasse qui ne se résolvera aujourd'hui que par la destruction d'un des deux camps. Et pour certains, c'est ça la paix. Pour certains, la paix, c'est quand non pas je me suis réconcilié avec mon ennemi, non pas j'ai trouvé un terrain d'accord pour cohabiter avec mon ennemi, mais quand j'ai réussi à détruire mon ennemi. Alors c'est sûr qu'on veut tous la paix, mais on ne veut pas tous la même paix. Et vous, mes frères et sœurs en Christ, vous apprenez et vous découvrez la paix de Dieu, la paix que Jésus nous offre. Vous savez, il a dit à ses disciples avant de partir, « Je vous donne la paix, je vous offre ma paix, je vous offre ma paix. » Il ajoute, non pas comme ceux du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'offre pas sa paix comme ceux du monde, comme le monde? Le monde offre sa paix à condition que. Christ offre sa paix, d'abord et avant tout. Il suffit de la recevoir. Les conditions, c'est lui qui s'en occupe. Et c'est une fois que cette paix est installée que quelque chose va pouvoir pousser, que quelque chose va pouvoir grandir, que quelque chose va pouvoir émerger. L'apôtre Jacques a cette phrase que je trouve formidable, qui m'a percuté le jour où je l'ai compris, je crois. Il écrit ceci: le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Je vous la répète, il faut l'écrire quelque part sur un mur chez vous. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Voilà. Ça, c'est l'approche de Dieu. Ça, c'est l'approche de Dieu. On va semer la paix. Et qu'est-ce qui pousse? De la justice. Et bien, nous, dans notre monde, on apprend exactement l'inverse. Tant que tu ne m'auras pas dit pardon, tant que tu ne te seras pas excusé, tant que tu n'auras pas reconnu que, tant que tu n'auras pas payé ceci, il n'y aura pas de paix. Et vous connaissez tous une situation de conflit. Deux personnes qui ne peuvent pas se croiser dans un couloir. Depuis combien de temps? Et vous êtes là, spectateur impuissant de cette situation absolument stérile, parce que deux égaux campent sur leur position, parce qu'ils croient qu'il faut d'abord la justice pour ensuite avoir la paix. Mais la paix, ce n'est pas une conséquence de la justice. La paix, c'est un but. La paix, c'est quelque chose qui se désire, qui se poursuit. Et ces personnes ne se parlent pas, ne s'évitent tout contact, refusent d'être au même endroit, au même moment. Et quand est-ce qu'elles pourront se réconcilier? Avec un peu de chance, un enterrement. Parfois, ça arrive, parfois non. Mais il faut des drames aussi violents que cela pour que des dialogues se renouent là où ils étaient perdus depuis longtemps. Ça dit, on dit long, sur nos réalités. Alors le Christ renverse les choses. Le Christ vient proposer autre chose. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Les artisans de paix, c'est vous. Et heureusement qu'il a fait ça avec nous, qu'il a d'abord posé la paix. On a des personnes dans notre église qui se sont converties depuis peu. Vous savez, on n'a pas besoin de leur expliquer tout ce qui est la justice et l'injustice de Dieu. Ils sont propulsés dans la paix de Dieu et l'Esprit Saint leur montre tout ce qu'il faut paramétrer maintenant dans leur vie. Et ils reviennent de semaine en semaine en disant « Oh, j'avais pas compris ça, oh, j'avais pas compris ça ». Et ce n'est pas à nous de les moraliser, c'est l'Esprit qui les conduit et ils sont tellement... Et cette paix qu'ils ont en Christ est le meilleur terreau, le meilleur terrain qu'ils ont pour être transformés à l'image de Jésus. Ce n'est pas la pression morale, ce n'est pas les sanctions, ce n'est pas les punitions, ce n'est pas les interdits, les choses comme ça. C'est la paix et l'amour du Christ qui les transforme. Mais voilà. À cause de ça, parfois le chrétien, les chrétiens que nous sommes, les artisans de paix que nous sommes, eh ben, on sort des cadres. Et dans tel conflit de famille, nous refusons de prendre un parti. Et sur tel débat politique, nous ne voyons pas l'intérêt de nous taper dessus pour quelque chose d'aussi futile. Et nous osons parler à un tel qui a été banni officiellement depuis 3 ans. Et nous croyons que la réconciliation et que la paix vaut plus que toutes les injustices. Et pour ces choses-là, parfois, c'est nous qui allons être source de division aussi. C'est pas que Christ veuille diviser les familles. C'est que Christ assume que d'apporter son royaume dans la famille peut être un événement de bénédiction incroyable et peut-être un moment de rejet.
Je vais être même peut-être audacieux et vous dire que parfois, apporter Christ dans des familles chrétiennes, ça peut bouleverser. Vraiment. Apporter Christ même dans des familles chrétiennes, depuis des générations, ça peut bouleverser. Parce que même là, les traditions, les idéologies peuvent largement prendre le pas sur le royaume du Christ. Mais courage. Jésus vous aime, vous. Il vous donne une paix sans limite où vous pouvez revenir, vous ressourcer, vous réconcilier, vous renforcer à chaque instant dont vous aurez besoin. Et courage, parce que le Christ aime votre famille, la vôtre. La vôtre. Et chaque membre de cette famille. Et que l'appel que vous vivez parce que vous y avez répondu dans votre vie de Dieu, eh ben, il veut, il donne, pas qu'il veut, pardon, il donne le même actuellement maintenant à chaque membre de votre famille. Le même. Le même package de promesses qui ne sont pas du tout encaissées, donc qui ne servent à rien. Mais il est là, prêt, pour chaque personne de votre famille. Donc, Dieu vous aime, Dieu aime votre famille. Et vous êtes la lumière, et vous êtes la source de paix que le Christ veut, par lequel Christ veut passer par chez vous. Ça ne nous empêche pas d'apprendre la finesse des mots. Ça ne vous empêche pas de laisser notre caractère être façonné par celui du Seigneur. La douceur, la patience, la persévérance, la bienveillance. Parce que, voilà, tous les chrétiens qui me disent « Ah, ma famille me rejette », parfois je me dis « Est-ce que c'est parce que tu as annoncé l'évangile dans toute sa beauté ou est-ce que c'est parce que tu leur as juste cassé les pieds ?» Non-stop. Mais je sais que quand je suis allé à la faculté de théologie, qu'est-ce que j'étais pénible. Quelques années après, que ce soit mes frères, que ce soit mes amis d'avant, ont tous dit, mais oh, qu'est-ce que tu nous prenais la tête? Qu'est-ce que tu étais pénible? Ils sont restés fidèles. Bon, ma famille, ils n'avaient pas le choix. Il y a des moments où on est pénible. Il y a des moments, ce n'est pas l'évangile qui rejette. Il y a des moments, c'est nous qui nous prenons la tête. Même, parfois, on devient arrogant avec l'évangile. Même, parfois, on devient blessant avec l'évangile. Prenons garde. Nous ne cherchons pas à avoir raison. Nous ne cherchons pas à ce que Christ ait raison. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin qu'on défende ses intérêts. Il est assez grand pour ça. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à témoigner de l'amour de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous cherchons à aimer les gens comme Jésus. Nous cherchons à aimer les gens comme Jésus. Et le Christ a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous sauront que vous êtes mes disciples. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, que tu as envoyé. Nous voulons témoigner de l'amour de Christ. Parce que les débats sans fin sur la foi, je n'ai quasiment jamais vu quelqu'un se convertir avec ça. Je termine. En rencontrant le Christ, je découvre quelqu'un qui m'aime comme personne. Je découvre quelqu'un qui a des attentes envers moi comme je n'ai jamais rencontré dans ce monde. C'est ça, cette nouvelle façon d'être en relation avec moi, qui est la source du plus grand témoignage que je peux avoir dans ma famille. C'est cette nouvelle façon d'être en relation avec moi, quand j'arrive à être comme ça envers ceux de ma famille, que je rends le plus puissant des témoignages du royaume. Et n'allez pas croire que ça va toujours poser des conflits. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes se sentent bénies et se sentent éclairées et renouvelées et libérées par cette nouvelle façon d'être en relation. Mais il faut me laisser être transformé par le Christ. Ce n'est pas moi, avec mes beaux discours, avec mes versets et en tapant sur les gens à coups de Bible, qui vont comprendre que Jésus les aime. Mais c'est en constatant la transformation qui s'opère en moi. En moi. Alors, allez-y. Immergez-vous, contemplez, méditez, réfléchissez. Comment est-ce que, Seigneur, tu es envers moi? Comment est-ce que moi, je peux être envers les autres? Et alors, vous apporterez beaucoup de paix chez vous. Amen.